Bonjour, bienvenue à cette table ronde où nous accueillons des scénaristes auxquels on pose une question que je trouve assez amusante. On leur demande s'ils sont des auteurs à part entière. La question est amusante parce que, je ne sais pas si vous la lisez comme moi, mais elle semble dire que peut-être que ça signifierait qu'en étant auteur, on serait un petit peu plus quelque chose, qu'on irait un peu plus loin. Je crois qu'ils auront des tas de choses à nous dire sur ce que représente le fait d'être scénariste et tout ce que ça implique de plus que le fait d'être auteur. En tout cas, ils sont tous scénaristes et souvent en même temps auteurs aussi. Et ils vont nous montrer la diversité des formes que peut prendre le métier de scénariste. Puisque si vous êtes nombreux ici, et je vois qu'il y a pas mal de jeunes qui sont là, le métier de scénariste fait rêver, mais on peut l'imaginer dans des formes bien différentes. On peut être scénariste pour faire de la bande dessinée, on peut être scénariste pour travailler en direction du cinéma, mais il y a tous les nouveaux métiers d'Internet, toutes les nouvelles formes multimédia qui mélangent de l'audio, de la vidéo, dans des web-séries, dans des projets de différentes natures. Il y a le jeu de rôle, il y a donc des tas de manières d'inventer des histoires autrement qu'en les écrivant, et c'est ce dont ils vont nous parler. Et on a peut-être un Stéphane Dupré qui va nous rejoindre, mais on n'a pas besoin, on peut très bien commencer sans lui dès maintenant. Donc je vais vous les présenter très rapidement. Si on part à droite, vous commencez à voir quelques-unes de leurs productions. À droite, Brice Tarvel, qui est présent ici comme auteur, que vous avez sans doute vu déjà sous la bulle du livre, mais qui est aussi scénariste pour la bande dessinée. D'ailleurs, voilà, c'est très bien qu'il y en ait au moins une qui soit présentée ici. Vous avez Frédéric Petitjean, qui va vous parler de son une activité de scénariste qu'il a menée pendant une grande période aux États-Unis en travaillant sur des films que tout le monde connaît, comme scénariste pour la production des dialogues. On va parler de Shrek, de Matrix, d'Apollo 13, de quelques-unes des productions les plus célèbres de l'histoire du cinéma, de l'imaginaire récent, et qui est en train d'entamer une carrière d'auteur absolument fulgurante avec un ouvrage qui fait beaucoup parler de lui tout de suite, mais qui au départ était un projet de scénario, donc qui se transforme, qui d'un projet de scénario est devenu un projet de roman, puis un projet de trilogie, donc on sent qu'il ne va pas s'arrêter là. Ensuite, on a Jean-Philippe Jaworski avec nous, que dans les domaines de l'imaginaire, on connaît surtout en tant qu'auteur de science-fiction, puisqu'il a été salué par de nombreux prix à l'occasion de la sortie de ses romans « Janois Vera » et « Gagner la guerre », mais qui, auparavant, tu rectifieras si je me trompe dans l'enchaînement, mais qui a commencé par travailler dans le domaine du jeu de rôle, qui a collaboré au magazine Casus Belli. Tu as écrit des scénarios de jeux de rôle, donc une autre forme d'activité scénaristique bien complémentaire. Et puis Pierre Bordage. Alors Pierre Bordage, pour tout le monde, c'est un grand auteur de science-fiction dans les domaines de l'imaginaire, mais c'est un petit peu moins connu chez nous. Pierre a fait énormément de choses, on évitera de les détailler parce que je crois que notre heure n'y suffirait pas. Mais tu as eu aussi des activités scénaristiques. On parlait en dehors d'une table ronde d'une des facettes de ton activité que moi j'ignorais complètement, qui était un travail sur un projet de web-série. Tu auras sans doute quelques mots à nous en dire. Voilà, vous voyez qu'on peut décliner cette activité scénaristique de manière bien diverse. Je crois que le mieux, c'est de commencer à leur passer la parole et de commencer à leur demander de nous raconter dans un premier temps, un petit peu, pas trop longuement, parce qu'après on aura des questions à creuser, Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le domaine du scénario et éventuellement, tout de suite, comment ça s'est raccroché à leur activité d'auteur? Qui veut commencer? Frédéric?
Alors, c'est bon, je n'ai pas besoin de manger le micro, vous m'entendez, c'est bon. Moi, ça a été assez particulier parce que, en fait, je dois être un des plus chanceux sur cette planète, je pense. Donc, voilà. J'ai rencontré des gens qui ont. Je suis parti aux États-Unis pour une histoire d'amour qui s'est super mal terminée, mais je lui dois beaucoup en fait, parce que en essayant de travailler pour une petite TV à New York, en anglais évidemment, j'ai ma mère qui est américaine, alors c'est un peu plus facile. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Ron Bass. Ron Bass, c'est un grand scénariste américain qui a travaillé sur Un vol tsunami coucou, sur Mariage de ma meilleure amie, plein de films qui sont sortis ou pas en France, mais qui est vraiment une sommité là-bas. Et puis voilà, il a lu ce que j'écrivais, il a dit que j'écrivais très très mal. Alors j'avais 24 ans, il dit vous écrivez mal, mais vos idées sont pas trop mauvaises, donc envoyez-moi ce que vous faites. Et puis donc je lui ai envoyé, sans que ça soit protégé ni rien. Puis 2 ans après, je vais essayer de faire court, mais 2 ans après, il m'a fait rentrer chez DreamWorks pour travailler dans des pôles d'auteurs. Alors au départ, vous êtes un numéro et vous devez faire donner des synopsis 2 par semaine. Et puis au bout de 6 semaines, si vous n'en avez aucun qui est retenu, vous êtes viré. Puis quand vous avez un qui est retenu, vous êtes gardé. Puis quand j'avais plein qui étaient retenus, j'étais gardé. Après, au passé, on met votre nom après sur votre badge. Et puis après, on commence à vous faire travailler sur des petites parties scénariques de films qui vont voir le jour ou pas, vous ne savez pas trop. Tout ça se passe à Glendale, au-dessus de Los Angeles. Et puis, un jour, il a emmené un synopsis que j'avais fait à un prix qui s'appelle le CASA, le King Arthur Skin Writers Award. Et il a eu le prix, il me l'a donné, puis il m'a fait travailler avec Ted Elliott sur Shrek. Et c'était assez génial parce que c'est le film sorti en 2001 et l'écriture a commencé en 97 parce qu'à l'époque, il fallait beaucoup, beaucoup de temps pour faire les calculs des dessins animés. Et c'est la première fois que ça s'adressait d'abord aux parents. Alors que c'est un détournement du conte, et comme les parents étaient obligés d'accompagner les enfants au cinéma, la réflexion c'est de dire comment on va faire pour qu'ils ne s'embêtent pas, pour qu'ils ne passent pas leur coup de fil et tout ça pendant le film. Shrek, c'est un petit conte qui existe, 17 pages aux États-Unis, et il nous a dit voilà, vous avez un mois chacun, il y avait 3 auteurs, Brian Gaffney, enfin des super auteurs américains, ils avaient tous la soixantaine et tout, moi je me demandais ce que je faisais là, et puis. Il a dit voilà, je vous donne un mois et vous m'écrivez. Il avait déjà séquencé, donc après je lui donnerai la parole, mais c'était un travail déjà de finition. Il avait séquencé déjà une partie du film. Il nous a demandé pendant un mois de faire le même conte, mais uniquement pour les parents, en n'ayant aucune limite, en parlant de la sexualité, de la bouffe, des excès, de tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc il nous a fait travailler chacun notre coin pendant un mois. Puis un mois après, on est revenu avec nos trois scripts. Puis il a enlevé la première page où il y avait nos noms, il n'a même pas regardé. Il nous a demandé de nous tourner, alors on s'est tourné. Il a mélangé les scripts, il nous a donné chacun le script d'un des 2 autres. Et il dit voilà, vous avez une semaine pour rayer ce que vous détestez dedans. Et donc on s'est retrouvé moins une semaine, alors, je ne savais pas lequel des 2 autres j'avais. Donc on a rayé, on lui a donné une semaine après. Et puis lui, il a fait un mix de ça, et puis il nous a réunis à la fin de son travail pour qu'on fasse un polichage. Du scénario, et voilà comment moi j'ai travaillé au départ sur les effets scénariques. Après, il a changé les équipes pour le 2, le 3 et le 4, donc on n'a pas pu travailler sur la suite. Mais voilà un exemple de travail un peu chanceux. Voilà.
Donc, scénarisation cinéma, on en reparlera. On va peut-être continuer avec Brice qui est à côté. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail plutôt du côté de la bande dessinée?
Oui, moi c'était pas chanceux, c'était plutôt accidentel. J'avais un copain dessinateur qui a été présenter ses travaux chez un éditeur, Fleurus en l'occurrence, et il est venu me voir, il dit, il me prête si j'ai un scénario pour faire des petites histoires. À l'époque c'était des hebdomadaires. Donc je m'y suis mis et après ça a duré 15 ans, ça m'a collé comme un sparadrap. Alors qu'au départ je faisais des nouvelles et je m'essayais à faire des romans. Et après cette période, je me suis mis au roman comme. J'ai repris mon chemin du départ. Voilà, c'est tout ça.
C'est-à-dire qu'à aucun moment tu n'as fait les deux en même temps. Ça a été des périodes différentes.
Si, je me suis accordé quand même le temps de faire 400 romans pour le fleuve noir à l'époque.
En parallèle.
Oui, mais comme arrivé à une période, j'avais 5 séries, donc j'avais plus beaucoup de temps pour faire 2 romans.
Bon, on a déjà le cinéma, la bande dessinée. On va continuer avec Jean-Philippe. Donc,
vous m'entendez?
Prends celui-là. Il marche très bien.
Oh, sinon, je peux donner de la voix.
Non, parce qu'il faut que ce soit.
Vous m'entendez là?
Non, prends celui-là, c'est mieux.
Oui, alors, moi, je suis celui qui, dans le panel, est le type pas sérieux. Hein. Je suis le rôliste de service. Donc, au départ, je perdais mon temps à faire d'immenses parties de jeux de rôle dont je faisais les scénarios et parfois les règles. C'était des jeux purement maison. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, j'ai diffusé sur un site personnel un certain nombre de mes scénarios. Et puis, comme j'étais frustré face à certains jeux du commerce que j'avais beaucoup pratiqué, j'ai commencé aussi à faire des jeux maison. Alors, à l'origine, c'était vraiment des jeux destinés à mes joueurs et à moi, donc que je ne comptais pas diffuser. Comme j'en parlais quand même sur le net dans la petite communauté rôliste, il y a un certain nombre de rôlistes qui m'ont demandé de renvoyer par email, par fichier joint, un jeu maison qui était une adaptation en fait de La Terre du Milieu de Tolkien. J'avais décidé d'écrire autre chose que JRTM, le jeu de rôle de La Terre du Milieu, qui était le standard à l'époque. Et de fil en aiguille aussi, j'ai composé un jeu amateur, toujours un jeu historique, sur les guerres de religion, T'es des hommes pour un massacre. Et ça fait du buzz sur le net. Et c'est remonté jusqu'à Tristan Lhomme, qui, pour les rôlistes, est un dieu vivant. Il est surnommé le collectif Tristan Lhomme parce qu'à une époque, il écrivait à lui seul 75% du contenu du magazine Casus Belli, qui était la bible des rôlistes. Et donc lui, il a remarqué ça et il m'a proposé d'écrire des scénarios dans Casus Belli. Et puis, il a fait une si bonne publicité à mon jeu historique, T'es des hommes pour un massacre, qu'ensuite j'ai été contacté par un éditeur, les éditions du Matago, pour en faire une publication professionnelle. Et du coup, j'ai aussi publié des scénarios de jeux de rôle. Alors, je peux répondre tout de suite à la question, je développerai ensuite, hein, mais a priori, non. Le scénariste de jeu de rôle n'est pas un auteur, et je vous expliquerai pourquoi.
Bien, ben voilà une position claire. On va demander à Pierre Bordage s'il a la même, quand il a eu ses incursions dans le scénario. Et d'abord, il faut peut-être que tu commences à nous expliquer de quelle nature ont été ces incursions.
Alors,
bande dessinée sûrement, mais...
Principalement un romancier, tantôt un novelliste. Et le scénario s'est venu par le biais d'une sollicitation de Marc Caro, de Caro et Jeunet, qui m'a dit on veut faire un film, voilà, j'aimerais qu'on bosse avec moi sur le scénario, donc voilà, j'ai bossé avec lui sur le scénario. Un scénario qui n'a jamais été pris, qui n'a jamais été accepté parce que jugé trop cher pour la possibilité commerciale. D'ailleurs, un scénario dont on a retrouvé après le film du fils de.
Fils de l'homme ?
Non, c'est là où il se passe entièrement. Enfin, un film qui se passe entièrement dans une navette spatiale du fils de David Bowie. Je ne sais plus comment s'appelle ce film, bon, bref. On a été voir le producteur nous a dit mais non, c'est trop cher et ça n'aura pas de succès. Producteurs disent ça n'aura pas de succès.
Bon, c'est la France. Là.
Et faites-nous un film faisable, c'est-à-dire pas cher, science-fiction, hein, on est dans la science-fiction, pas cher, qu'on puisse tourner, bon, etc. Et donc on s'est attelé au projet Bande 01, qui est un film en huis clos, donc avec une unité de lieu qui disait que le projet était faisable. Et le projet était faisable et a été fait, mais pas du tout comme on l'avait prévu. et j'ai découvert à ce moment-là l'horrible frustration du scénariste. Le scénario est un métier de frustré, globalement, parce que déjà, vous êtes limité par l'argent. Et les producteurs qui décident de ce qui doit être fait et pas être fait. En tant qu'auteur de science, en tant qu'auteur, vous pouvez mettre un jour 1000 milliards de vaisseaux débarquer dans le système. Pas de problème, ça coûte rien. Vous faites ça sur un scénario, à la première ligne, le producteur fait « Bien, je vais vous expliquer quelques trucs au sujet des effets spéciaux et tout ça. » Donc ça coûte déjà très très cher, on a pour 10 millions de dollars, donc on va commencer avec un vaisseau. Et puis de toute façon, comme un vaisseau, c'est encore un peu cher, on va commencer avec une voiture. Voilà, bon, donc déjà on est un peu raboté, quoi. Et c'est tout le temps comme ça, c'est du travail de rabotage permanent. Et puis ensuite, il y a l'assistant de Marc Caron qui s'appelait Franck Vestiel, qui m'a sollicité pour travailler sur son projet qui s'appelait Eden Log. qui est un film très étrange. Lui, il avait une vision assez précise, non, assez imprécise sur l'univers, mais il avait une sorte d'obligation visuelle, comme ça, il voulait faire quelque chose de visuel, et il me dit, est-ce qu'on peut faire une histoire avec ça? Et ça a été très très compliqué à monter, très compliqué à dégager une vraie histoire, si bien qu'à la fin, j'ai dégagé, mais on n'y arrivait pas, quoi. Donc, voilà, il a fait ce film en reprenant des éléments qu'on avait mis en place, mais en changeant aussi certaines choses. Bref, je suis un scénariste maudit, voilà. Tout ce que je fais, ça se transforme en plomb. Dans le 01, a tenu 3 semaines dans les salles. Non, 3 semaines, 3 jours.
3 semaines, c'est bien. Hein.
Ouais, 3 semaines, ça aurait été vachement bien, 3 semaines. Eden Log n'a pas eu de succès du tout. Et puis, j'ai aussi participé à 2 autres projets. L'un, c'était Kaina, la prophétie, qui était le premier dessin animé.
3D français.
Premier ordinateur français, voilà. Pour lesquels j'ai juste lancé l'histoire et pour lesquels je suis propriétaire de 2 personnages.
Un c'est dans l'arbre. Dit,
vous êtes propriétaire de 2 personnages. Ouais. Au cas où il y aurait du merchandising, qu'il n'y a pas eu, donc tout va bien. Et ensuite, une production française qui s'appelle Haut et Court m'a demandé, ils avaient acheté les droits de Demain les chiens, hein, ça, de Simac, qui est un des premiers livres que j'ai eu dans science-fiction à l'université de Nantes.
Jimmy Desmarais.
Et c'est un bouquin parfaitement inadaptable. ça se passe sur 12 000 ans, il y a 8 contes. Enfin, c'est l'histoire de comment les chiens remplacent les hommes peu à peu avec tout le fourre-tout de la SF. C'est un truc assez incroyable, il y a le tout là-dedans. Mais comment adapter un truc comme ça? Frustration, ok, voilà, donc on trahit. Bah oui, on est obligé de trahir du coup complètement, de défigurer complètement le livre tout en essayant de garder l'esprit. Et ce projet, je l'ai fini, le producteur l'a validé. Et après, on s'est heurté à un problème qui est celui de l'argent, je vous rappelle. Parce qu'il y a toujours ce problème-là qui revient en ligne de compte. Et le film est en lecture en Angleterre, en Asie, à Hong Kong et tout ça, en Corée. Et là, c'est au point mort. Voilà. C'est toutes mes activités de scénariste. Et pour l'instant, je suis en train d'essayer une dernière. Ah, mes livres ne sont pas d'accord avec moi. Une dernière activité de scénariste qui est. Celle de la bande dessinée, parce que je suis en train d'adapter un de mes livres, Les Fables de l'Impure, en bande dessinée, ce qui me permet de voir la différence, les différences essentielles entre la littérature, très bavarde, et la bande dessinée, très elliptique. Donc ça, c'est très intéressant aussi de voir comment on peut raconter 2 histoires de façon totalement différente.
Oui, donc là, on a déjà un aspect sur le cinéma qui est assez évident, c'est que l'auteur a une possibilité de création qui est complètement illimitée, qui apparemment n'est contraint par personne, enfin à part la contrainte de l'éditeur qui doit être intéressé par l'ouvrage à l'arrivée, il n'y a aucune raison qu'à un moment donné ça coince parce qu'on n'est pas soutenu, qu'on n'a pas le budget, qu'on n'a pas les moyens techniques. Donc finalement, de ce point de vue, l'auteur littéraire a une énorme liberté, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut inventer. Toi qui as eu beaucoup de chance depuis le début, est-ce que tu l'as ressenti quand même à certains moments?
Oui, en fait, il y a d'abord au niveau du scénario, enfin en ce qui concerne le film, parce que moi j'ai aucune expérience dans la BD malheureusement, ni dans les jeux de rôle, c'est un travail collectif, donc à partir du moment où et puis c'est pas le même si on travaille, ça dépend du format, si on travaille pour la télévision, au cinéma, quand tu parlais de Haut et Court qui font beaucoup de télévision, c'est des fois, enfin les contraintes sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, c'est sûr que dès le départ, vous apprenez à limiter les unités de lieu, comme disait Pierre, à ne pas faire un travail trop collégial au niveau des personnages que vous proposez. Ou alors, si vous avez beaucoup de personnages, vous essayez de limiter le nombre d'unités de lieu, on essaie d'équilibrer petit à petit, mais ça s'apprend. Au départ, j'ai trouvé que c'était pénible, mais comme je suis pas romancier, j'apprends vraiment à être romancier, puis alors, j'ai pas terminé, au secours. Hein. Mais moi j'ai toujours travaillé avec ces contraintes et j'ai pris ça plus pour un jeu que pour que vraiment des limites. Mais j'ai vraiment eu la chance de travailler avec des producteurs influents et qui ont donné et des gens qui étaient plus connus que moi tout de suite. Donc c'était assez facile d'imposer une vue et après quand vous rentrez en France, qui est très c'est beaucoup plus compliqué d'être scénariste en France. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de respect pour l'auteur sur le travail. Les deux acteurs majeurs au niveau des États-Unis pour le cinéma, c'est le scénariste et le producteur. En France, c'est le réal et l'acteur. Donc c'est vraiment différent. Vous arrivez avec le scénario qui a été validé par la terre entière. Et si l'acteur dit non, mais là, ça me plaît pas, le truc, donc on l'enlève. Puis il y a le directeur financier qui arrive, puis il vous dit ouais, cette scène, moi j'aime pas trop. Donc vous donnez son bilan, vous dites ouais, mais là t'as fait une erreur dans ton bilan, c'est la même chose, mais là il n'entend pas. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile en France. Donc après, les contraintes, elles sont liées à la fabrication, mais l'histoire, elle est la base. Enfin, il y a un sujet, une histoire, et vraiment l'élément, c'est d'arriver à trouver un sujet qui corresponde à une envie du moment des producteurs, parce qu'il y a ça aussi. Il y a tellement d'argent en jeu pour fabriquer que ils font déjà un choix au niveau des histoires qu'on veut donner. Et puis après, dans la manière de le fabriquer, on a généralement, vous commencez pas à tourner ou même à essayer de financer le film. Parce que le tournage, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Comme disait Pierre, c'est en gros 10 scénarios d'écrit pour un qui monte au cinéma, qui monte à l'écran, je veux dire. Et encore après, il faut que ça marche. Mais une fois que ce sujet est choisi, après, la liberté dans l'histoire, si vous connaissez les éléments du départ, c'est comme une course de Formule 1. Bon, il y a des routes que vous ne pouvez pas prendre et il y a une certaine manière de prendre le virage, mais vous pouvez y aller à la vitesse où vous voulez. C'est à peu près pareil. Et après, c'est une histoire, là, pour le coup, de technique. Moi, j'ai ressenti la liberté en allant effectivement vers le roman. Parce que pour parler des Dolce, on a essayé de vendre un peu, non, je plaisante. Moi, j'ai qu'un roman, alors je me sens un peu petit, là, c'était un scénario pour DreamWorks. C'était une bible de scénario qui faisait 50 pages avec son traitement, son synopsis tout petit de pages, traitement d'une quinzaine de pages, une fiche de personnages assez étudiée, et puis une note d'auteur, et puis même le concept d'un jeu vidéo dessus. Et puis en fait, l'éditrice qui s'appelle Stéphanie Chevrier, qui travaille au sein du Seuil et qui a une collection qui s'appelle Don Quichotte au sein du Seuil, et qui était l'ancienne directrice d'édition Flammarion, je crois, et qui est venue à Los Angeles parce qu'il y a une amie productrice qui lui a donné cette Bible et qui lui a dit non, faites-en un bouquin parce que dans l'univers il est vraiment gros. Et effectivement, et là je rejoins Pierre aussi, c'est-à-dire que quand j'étais déjà en train de faire des choix dans ma propre histoire avant même de la présenter au producteur. De faire des choix sur ce que je pouvais dire ou pas. Et là, du coup, ça a été un vrai espace de liberté, je suis complètement d'accord par rapport à ça, pour l'emmener sur le roman. Par contre, ça a été un travail de fou. Alors ça, si je peux à refaire, je ne sais pas. Mais pour la première fois, je me suis mis à travailler, c'était l'enfer. Et en fait, aujourd'hui, ce scénario, les droits sont déjà achetés par DreamWorks, parce que c'est eux qui avaient les droits de mon idée originale à la base. Donc il va exister en film. Mais justement, l'élément, là, une fois que le roman est écrit, dans la manière dont je chapitre le tome 2 et le tome 3 comme le tome 1, l'idée c'est de savoir exactement qu'est-ce que je vais réserver pour le film et au moment de l'écriture du roman. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est encore une chance de savoir que ça va être adapté après. Donc ça me permet de cloisonner un peu mon travail. Voilà.
Bon, en tout cas, Pierre a commencé à faire le lien, en tout cas à nous parler à la fois de cinéma et de bande dessinée. Donc les limitations dont on est en train de parler, les contraintes qu'on est obligé de s'imposer quand on travaille pour le cinéma et qu'on est dans des cadres où il y a des contraintes de toutes sortes, ne doivent pas fonctionner pour la bande dessinée. Et ça, Brice doit pouvoir nous en parler, puisque Brice est passé de l'un à l'autre, du métier d'auteur au métier de scénariste.
C'est par tous les stades,
oui.
Sauf le cinéma. Du cinéma, je retiens simplement la citation du scénariste américain Billy Wilder, « Être scénariste, c'est faire son lit et aller coucher ailleurs. » Sinon, pour la BD, ben, c'est pareil, c'est frustrant parce que dans une BD, il n'y a pas d'auteur, on est limité par les cases, il faut donner envie de tourner la page, comme dans Tintin.
Ben ça, les auteurs aussi ont ce problème. C'est pas propre à la bande dessinée, le fait de devoir donner envie de.
Ok, il y a les cases.
Les cases enferment.
46 planches. Donc c'est quand même limitatif, alors que quand après on passe au roman, on devient dessinateur en faisant un roman. On fait les couleurs, on fait les personnages tels qu'on les voit. En plus, quand on décrit quelque chose dans un scénario de bande dessinée, l'image qu'on en a, c'est jamais ce que restitue le dessinateur. Si talentueux qu'il soit, il restituera toujours autre chose. Alors, c'est beaucoup mieux le roman.
on sent la frustration du démiurge quand il...
Moi, je l'ai dit au début, j'ai fait ça accidentellement pour rendre service. Donc, okay, ça durerait 15 ans au service. On peut tuer quelqu'un pour une peine comme ça. Mais non, mais d'un autre côté, les salons de BD sont très richement dotés. On est reçus royalement, tout au moins à l'époque où...
On a du public en dédicace sur des centaines de mètres.
Oui, il y a des filles de dédicace, ils amènent leurs chaises, ils ont même des chaises pliantes, ils attendent 4 heures et tout, donc c'est tout à fait différent. Il y a très peu de passerelles entre les gens, les amateurs de romans et les amateurs de BD. Moi, je fais les aventures d'Harry Dixon à la façon de Jean Rey, et c'est un copain illustrateur de BD qui fait la couverture, donc c'est un peu de connotation BD dans la couverture. Dans un festival BD, si je présente ça, ils regardent la couverture, ils sont attirés, ça fait BD, ils ouvrent, ah, il n'y a pas d'image, ils referment. Il n'y a pas beaucoup de passerelles.
Bon, on va demander à Jean-Philippe Jaworski si c'est frustrant de faire du jeu de rôle, et pourquoi c'est frustrant si ça l'est. Mais peut-être pas.
Ah non, faire du jeu de rôle, c'est pas frustrant. Ah. Non, parce qu'on fait jouer ce qu'on écrit, alors forcément, il y a beaucoup de plaisir. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je disais qu'un scénariste de jeu de rôle n'est pas un auteur. Par contre, il est préférable qu'il soit un écrivain. Et il y a des relations entre le scénariste de jeu de rôle et le romancier. Alors pourquoi pas un auteur ? Je reprends l'étymologie de l'auteur. Hein. L'auteur, c'est celui qui a l'autorité. D'où l'argument d'autorité, etc. Le scénariste de jeu de rôle n'a aucune autorité. Parce que les joueurs feront toujours autre chose que ce qu'il avait prévu dans son scénario. Donc, on peut dire adieu au statut d'auteur quand on écrit un scénario de jeu de rôle. Et les joueurs sont extrêmement inventifs pour inventer parfois des trucs géniaux, souvent des trucs débiles, qui font que ce qui était prévu dans le scénario devient complètement obsolète ou dépassé, etc. Alors, pourquoi par contre est-ce qu'il faut avoir des qualités d'écrivain ? Dans la mesure où le scénario de jeu de rôle, c'est du matériel de jeu qui est à destination d'un maître de jeu, c'est-à-dire d'un conteur interactif qui propose à ses joueurs d'incarner les personnages principaux du scénario que le scénariste propose, il faut que le texte du scénario soit très clair, très informatif. Et il faut aussi qu'il soit écrit d'une manière relativement agréable parce que comme le matériel qui est proposé dans le scénario, c'est quelque chose qui va être lu et relu par le maître de jeu, il est préférable que ce ne soit pas un pensum à lire. Donc il faut des qualités de clarté, de concision, il faut beaucoup de précision et il est préférable donc d'avoir un style plutôt clair et précis pour écrire un scénario de jeu de rôle. Alors, pourquoi un romancier ? Parce qu'il y a pas mal de points communs, finalement, entre la composition d'un scénario de jeu de rôle et la composition d'un roman. À tel point, du reste, que certains romanciers actuels travaillent comme des scénaristes. Je pense en particulier à Alain Damasio, qui dit dans ses interviews que quand il a écrit « La Horde du Contreband », il a commencé par faire des fiches de personnages pour chacun des membres de la Horde. Ce qu'il faut se poser comme question pour un scénariste de jeu de rôle, et je pense que ce n'est pas seulement le cas d'ailleurs pour un scénariste de jeu de rôle bien loin de là, mais ce sont aussi des questions qui vont se poser aux romanciers, sont les questions de base. Hein, qui ? Alors, qui seront les joueurs ? Qui seront les personnages non joueurs, c'est-à-dire les personnages fictifs qui vont être rencontrés par les joueurs ? Quel est, alors en particulier pour moi qui fais du jeu de rôle historique, il faut situer précisément la date et les événements qui entourent le scénario hein, ou qui donnent le cadre historique du scénario, ou ça c'est plutôt quand hein, que je suis en train d'évoquer, ou bien sûr le lieu, là aussi hein, dans le cadre du jeu de rôle historique, mais c'est valable aussi pour le jeu de rôle de fantasy. Il faut savoir précisément quel est le cadre, il faut donner des clés précises au maître de jeu pour qu'il puisse faire une peinture évocatrice. Quand et comment, donc quand j'ai déjà évoqué, comment. Alors là, c'est très important dans le scénario de jeu de rôle, et c'est la grande différence avec le roman, par contre. Un scénario de jeu de rôle est arborescent. C'est-à-dire que comme les joueurs sont théoriquement libres de faire ce qu'ils veulent, On ne va pas définir une fin, mais on va définir plusieurs fins. On ne va pas définir une intrigue, mais on va définir plusieurs façons dont l'intrigue peut se dérouler. Il faut donc se poser la question des différents chemins que peuvent suivre les joueurs pour parvenir à une fin. Il faut tenir compte aussi du fait que les fins peuvent être diverses. Le scénario peut être une réussite, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une fin heureuse pour les joueurs. Le scénario peut être un échec, il peut y avoir une fin tragique ou malheureuse pour les joueurs. Le scénario peut être une demi-réussite et idéalement, en fait, il faut prévoir ces différentes issues. Donc le comment est très important. Et puis le pourquoi est capital. Le pourquoi, c'est la motivation des PNJ, c'est-à-dire des personnages non-joueurs que vont rencontrer les joueurs. Il faut qu'on donne au maître de jeu des motivations très claires sur les personnages, sans quoi le maître de jeu ne va pas trop savoir quoi en faire. Alors s'il est bon, il va improviser. S'il n'est pas en forme, il va donner une peinture très plate des personnages et ce ne sera pas motivant pour la partie. Le pourquoi est très important aussi pour définir la motivation des personnages, des joueurs. Pourquoi est-ce qu'ils vont se lancer dans une aventure dangereuse où les personnages peuvent risquer leur peau, sachant qu'il y a certains joueurs, hein, parmi le caractère très surprenant des joueurs de jeu de rôle, il y en a un certain nombre qui vont fuir devant l'adversité, la difficulté. Essayez d'écrire un roman où le héros se dépine. Vous avez des joueurs qui peuvent avoir cette tendance-là. Donc il faut les motiver, hein. Il faut les motiver à affronter l'adversité. Sur ces questions-là, en fait, ça rejoint un certain nombre de questions que le romancier peut se poser sur la mise en place de son intrigue.
Ça, c'est une question qui me semble très intéressante. Et en plus, comme vous avez chacun traité la question du scénario d'une manière différente, ce serait peut-être intéressant que vous nous disiez chacun en quoi ce travail que vous avez fait sur les scénarios a transformé votre manière de travailler en tant qu'auteur. Là, tu viens de nous dire qu'il fallait construire des personnages qui savaient quel était leur projet. On a peut-être un peu une quête derrière, en tout cas une motivation à inventer. Ça doit être très déterminant quand on est auteur d'avoir ça en tête. Il y a sans doute aussi d'autres choses. La bande dessinée ou le cinéma ont peut-être aussi changé votre point de vue d'auteur. Vous auriez peut-être écrit autrement ou vous écriviez autrement. Je vais demander à Pierre, qui a été auteur bien avant d'avoir ces expériences diverses. Est-ce que ça a changé ta manière de travailler en tant qu'auteur, d'avoir eu ces expériences ?
Je suis parti en courant. Il y a plusieurs choses, parce que, écoutez ce que disent mes camarades, le désir de chacun, finalement, c'est de raconter une histoire. Alors après, on utilise différents supports pour raconter une histoire, qui sont l'image, le cinéma, l'image bande dessinée, le jeu de rôle, qui est une autre façon de raconter une histoire. Et après, on est plus ou moins à divers degrés dans la chaîne de l'histoire. Quand on est romancier, on est entièrement responsable de son histoire et on est le seul maillon de la chaîne. Ce qui veut dire qu'entre le public ou le lectorat et nous, il n'y a que l'interface de l'écriture. Donc c'est l'enjeu propre primordial du romancier, c'est l'écriture, c'est de savoir comment il va raconter son histoire avec son écriture, qui est son sang du coup, qui est son seul véhicule pour raconter cette histoire. Donc sa responsabilité, tu parlais d'auteur, autorité, elle est du coup énorme, parce qu'elle ne repose que sur lui. Dans le cinéma, vous diluez, vous êtes un maillon de la chaîne qui est destiné à disparaître, puisque le résultat final, ce sera le réalisateur qui vous proposera sur l'écran. Pour la bande dessinée, c'est un petit peu différent, je pense, mais il y a aussi une autre forme de terrorisme qui est celui du dessinateur. C'est quelqu'un qui vous impose son univers visuel et que vous... Alors, ça surprend parfois.
C'est vrai qu'on est auteur de scénariste de BD, on est surpris par l'univers visuel du dessinateur, parce que c'est pas celui qu'on a créé.
Donc rien ne peut remplacer finalement l'espèce de liberté imaginative que propose le roman. C'est ça sa force absolue. C'est-à-dire que c'est le mot qui crée. Et dans le cinéma et dans la bande dessinée, le genre aussi, il y a le mot qui crée, mais dans le cinéma et la bande dessinée, on a un univers imposé par quelqu'un. Ça fait une énorme différence, quoi. Après, il y a en travaillant sur le cinéma et en travaillant sur la bande dessinée, on se rend compte qu'il y a des manières de raconter différentes. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres manières de raconter. C'est-à-dire de se mettre au service de quelqu'un qui va, du coup, lui, finir le travail, qui va être celui qui amène sa touche finale, d'abord, ça apprend l'humilité, vertu essentielle du scénariste, il faut vraiment
ne s'attendre à aucune reconnaissance de la part de qui que ce soit quand on est scénariste, et en France particulièrement parce que la nouvelle vague a tué le métier de scénariste,
pour
le savoir. Avant la nouvelle vague, il y avait un vrai statut de scénariste en France. Il y avait des Janson, il y avait des Prévert, il y avait un tas de gens. Peut-être c'était poussiéreux, mais au moins il y avait un rôle de scénariste qui a disparu avec la nouvelle vague, puisque la nouvelle vague a dit nous sommes les auteurs. Donc ça raconte des histoires, mais ça ne fait rien. C'est nous qui allons être les auteurs. Donc tout ça pour dire que ce que j'ai appris, le romancier a tendance à être bavard, parce que encore une fois le mot est gratuit, donc on en profite largement. Le cinéma et la bande dessinée m'ont appris une forme de sobriété. Entre autres, pour la bande dessinée, vraiment je suis fasciné par le fait qu'on doit tout faire comprendre au lecteur par le biais de l'ellipse. J'ai lu le livre, comment ça s'appelle ce livre, sur l'art de la bande dessinée par, je permets-moi, où il raconte que finalement tout se passe entre les cases. Et ça, c'est assez fondamental dans la bande dessinée. Et là, il y a vraiment un travail. Alors le scénariste a vraiment un très grand rôle à ce niveau-là, c'est-à-dire de faire comprendre l'histoire avec des cases figées, c'est une sorte de succession de petites scénettes figées théâtrales en quelque sorte, et tout le mouvement il se fait entre les cases, et ça, ça apprend énormément sur cet art délicat à manier qu'est l'ellipse. Voilà, pour le cinéma, tout l'aspect contrainte, c'est vrai que ça peut engendrer une forme de créativité aussi. Ça, je suis assez d'accord avec vous. Voilà, on a la contrainte. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cette contrainte et en sachant qu'on va disparaître et qu'on se met au service de quelqu'un qui, lui, va finaliser le projet. Donc ça, c'est encore une autre perception.
Je pense que Brice doit avoir envie de réagir là sur certaines choses qu'a dit Pierre. Puisque Pierre disait que la bande dessinée, c'est la sobriété, l'ellipse. Toi, tu disais tout à l'heure qu'on était enfermés dans des très petites cases. Et du point de vue de... Quand tu as retrouvé ta plume d'auteur, est-ce que tu as plutôt...
Ça s'appelait l'art invisible. C'est ça.
Est-ce que tu as plutôt eu envie d'appliquer les principes de sobriété, de concision que tu avais appris en tant que scénariste et de les réutiliser en tant qu'auteur? Ou est-ce qu'au contraire, tu as eu envie de t'exploser? On a bien senti que tu retrouvais la joie de maîtriser tous les aspects visuels, le graphisme, de contrôler l'esthétique des mondes que tu mettais en scène. Mais du point de vue de l'expression, du style, est-ce que tu t'es explosé aussi?
Oui, quand même, mais il reste une trace de l'ellipse. Ça sert quand même d'aller à l'essentiel, puis d'avoir une vision du dessin, de l'image qui peut découler de ce qu'on décrit. Puis il reste quelque chose, hein, de toute façon.
Est-ce que l'auteur littéraire peut faire quelque chose de comparable à ce qu'évoquait Pierre sur le principe que ce qui était important se passait entre les cases? Est-ce que l'auteur fait ça aussi? Est-ce qu'il le fait consciemment?
Ah oui, donc c'est différent parce que là on a de la place sur un roman, donc on peut parler du vol d'une mouche comme dans les films de Sergio Leone, on peut faire une respiration poétique, un petit truc entre deux scènes d'action. Il faut trouver des respirations,
des silences.
Et puis de l'humour aussi, c'est très important, les traits d'humour, les petites choses. Il ne faut pas ennuyer, surtout, il faut toujours penser au lecteur. Alors que dans la BD, il faut déjà penser au dessinateur, dire comment il va s'en sortir, qu'est-ce qui va m'emmerder, parce qu'il va dire, mais non, ça, je ne peux pas dessiner ça, ça ne va pas.
Le dessinateur, ou pas.
Donc il faut penser au dessinateur et après au lecteur.
Heureusement que Stéphane dit
pas, voilà. On pense tout de suite au lecteur. On écrit ce qu'on veut et tout en tenant compte de comment va réagir le lecteur en recevant ça. Toujours pense au lecteur.
Tu ne feras plus jamais de BD.
Si, j'ai un projet en cours. Il y a des chances de se réaliser, mais petite chose.
C'est toi qui décides.
La petite demeure, mais la BD, c'est pas négatif tout le temps. Non, ça apporte des choses. Mais déjà, au départ, il faut former un couple. En former un couple dans la vie, c'est pas évident. Et en former un pour le travail, c'est encore pire. Il faut vraiment s'entendre, il faut savoir partager ses bières, il faut savoir...
On peut se marier plusieurs fois quand même.
Oui,
on n'est pas forcément marié à vie avec le même.
Mais mais c'est très difficile sur la durée. En plus, si ça marche, c'est une série, on est appelé à se fréquenter pendant des années, il faut être vraiment copain, il faut...
Sans sexualité.
Presque, sans sexualité en plus, oui, c'est très difficile. Mais ça arrive. Et donc ça apporte des choses aussi, quand même. Et j'ai toujours la sensation que la vraie chose, c'est le roman, la fiction, et tout le reste, c'est des édulcorations. Il y a le cinéma avec des images, il y a la BD, il y a le théâtre dans le désordre. Hein. Il y a le théâtre, et quand on en arrive après au roman photo, au braille, j'ai l'impression de fabriquer un chien d'aveugle pour diriger quelqu'un suivant ses capacités à assimiler le récit.
Alors, il y en a un à cette table qui nous a clairement dit que son activité de scénariste n'avait rien à voir avec son activité d'auteur, c'est Jean-Philippe. Enfin, encore qu'il a distingué l'auteur et l'écrivain d'une manière qui laisse la porte entrouverte. Mais tu as dit une chose sur laquelle j'aimerais bien interroger Frédéric. Puisque tu as, Jean-Philippe a évoqué le fait que quand on était scénariste pour le jeu de rôle, il fallait inventer des structures arborescentes avec des tas de séquences possibles, des fins diverses selon la manière dont les joueurs avaient envie de travailler. Et comme on est quand même dans un monde de plus en plus Internet, multimédia, et qu'il est intéressant de réfléchir aussi à ce que pourrait devenir non seulement le livre interactif, mais le cinéma interactif, des web-séries participatives, des projets collaboratifs de toutes sortes. Moi, je connais plein de gens qui en ont dans leur tiroir, qui les ont en projet. Et la différence qu'il y aura peut-être dans le cinéma à venir, c'est le fait que le public pourra dire « Tiens, j'ai bien envie que tel personnage revienne. » ou pourra peut-être choisir ses parcours de lecture. Alors, toi qui as travaillé à la pointe dans l'industrie hollywoodienne avec les plus grands, comment tu imagines, est-ce que ça te paraît concevable de faire du cinéma arborescent comme ça, avec plein de développements possibles et des parcours de lecture?
Je ne sais pas, je distinguerais deux choses au niveau de l'image. J'ai travaillé, comme je disais, pour la télévision, pour une série ou pour un film. Pour un film, la gestation, elle est longue et elle est surtout, elle intervient très longtemps avant la... très longtemps avant la diffusion au cinéma, parce que vous travaillez généralement 2 à 3 ans avant que ça sorte au cinéma, donc l'interaction elle est nulle en fait. C'est vraiment vous présenter un travail terminé, vous êtes déjà en train de travailler sur la suite ou sur un autre film, et votre travail en tant qu'auteur il a été fait 2-3 ans auparavant, donc c'est un peu compliqué. Par contre, pour la télévision c'est autre chose. Pour les deux exemples, j'ai travaillé sur, pour HBO, sur Six Feet Under et sur Warner Brothers, qui était produit par Antonopoulos, qui a fait la série Rome aussi. Et là, c'était assez intéressant parce qu'il y avait un très grand directeur de collection, c'est la personne qui dirige un pôle d'auteur, qui s'appelle Fontana, qui est un grand, grand auteur de télévision aux États-Unis. Et en fait, il avait réuni 5 auteurs, et pour vous donner un peu l'interaction qu'il y avait sur cette série, on devait faire un épisode de 26 minutes toutes les semaines. Le lundi, on avait une grille que les producteurs nous donnaient avec différents thèmes. Sur lequel on devait choisir l'injustice, le rapport entre deux personnages, des choses comme ça. Il y avait aussi là où en était la série dans sa diffusion, là où était la série dans son tournage, et donc quand interviendrait l'épisode qu'on devait écrire. Et le lundi, en fait, il divisait ces 26 minutes en 3 parties. En gros, 3 parties de 10 minutes pour faire un bloc plus simple, donc de 30 minutes. Et on était 2 par 2, le directeur de collection et un auteur, et puis 3 groupes de 2. Et on devait séquencer, donc faire les parties sans dialogue, de chacun d'une partie de 10 minutes qu'on avait en charge. Donc chacun avait sa partie de 10 minutes. Ça, c'était lundi. Le lundi soir, on devait faire les liens entre ces 3 parties. À la fin de la soirée, on avait séquencé, donc la totalité des séquences pour 26 minutes. On comptait en gros entre 80 et 100 séquences de tournage. Et à savoir qu'un film d'une heure et demie, une comédie, c'est autour de 100 séquences. Il n'y a pas de règle, mais c'est une moyenne, hein, tout là. Et là-dessus, le mardi, on avait, une fois que les séquences étaient faites, on commençait le dialogue et on avait une journée chacun de notre côté, donc les 5 auteurs, où on devait faire la totalité des dialogues dans la journée, où on avait le droit qu'à 5 phrases par scène. Et donc, alors c'est une méthode hitchcockienne, mais c'est pas, moi j'ai rien inventé du tout. Hein. En fait, c'est une seule idée par scène, jamais plus. Tout doit être la lumière, le jeu, le mouvement de caméra et les dialogues, tout doit être donné vers la même idée dans la scène. Et on a le droit à, si qu'on ait 6 personnages ou un seul, on a le droit à 5 phrases. Et enfin, 5 dialogues. Et de là, vous arrivez avec un épisode à la fin de la journée, le lundi, qui fait en gros un quart d'heure. C'est le jus, l'essence même de l'épisode. Donc le mardi soir, donc, vous devez choisir exactement ce qui va être. Vous avez le travail des autres aussi. Donc on choisit quelles sont les 5 meilleures phrases à chaque fois. Comme tout le monde a écrit sur les meilleures scènes, ça se rejoint. Il y a des fois qui sont très similaires, des fois c'est complètement éloigné. Là, on se concerte tous les 5. Donc c'est, on oublie les prénoms, les noms, les CV de chacun. Et c'est à la meilleure idée qui l'emporte. Et puis c'est un travail collectif. Donc il faut s'enrichir plutôt que combattre. Et puis, le mercredi, on a notre jus d'épisode d'un quart d'heure. Et là, on prend tout ce qui n'avait pas été retenu pour commencer à faire le grain autour de l'épisode et rajouter ces 10 minutes. Et le jeudi et le vendredi, on donne vendredi matin au producteur, on donnait l'épisode. Et le vendredi soir, il revenait validé ou pas. Et si c'était pas validé, on faisait la gueule. Et si c'était validé, c'était la fête. Et donc on était bien un sou une fois sur deux, donc c'est sympa. Et voilà une méthode par exemple pour une série à la télévision. Et là, l'interaction était vachement intéressante parce qu'il y avait des milliers de lettres d'insultes comme de soutien. J'en ai gardé une d'insulte qui est géniale, mais bon, bref.
Tu l'as pas là?
Non, je l'ai pas là, mais j'ai adoré. Enfin, c'est vraiment, on s'est fait traiter de tout ça, de nazis en passant par tout ce qu'on veut. Parce qu'on se moquait des morts, on se moquait pas. Qui travaillait sur la mort, c'est surtout parler de la vie en fait, mais bon, ça c'est un point de vue. Et puis bon, il y a des. Voilà, bon, moi c'est un pays très très puritain, enfin très croyant les États-Unis, donc des fois il y a des choses un peu compliquées, mais bon. Et en tout cas, on peut aborder tous les sujets, ce qui n'est pas toujours le cas en France. Et en niveau production, j'entends. Et donc voilà une méthode pour la télévision. Et là, il y a une vraie interaction parce qu'on prenait en compte, par exemple, qu'on avait 60, 200 lettres de gens qui disaient « Mais que devient tel personnage ?» ou « Pourquoi il y a ça ?» On s'est aperçu qu'on avait fait peut-être une erreur où on avait fait un oubli, on avait ouvert une porte qu'on n'avait pas fermée, c'est-à-dire on a ouvert une idée dans le scénario et finalement qui n'a jamais été conclue parce qu'on l'a oublié, ça arrive. Et voilà, donc on pouvait réagir à 3-4 semaines d'avance. Mais dans le cinéma, ça c'est infaisable par rapport au temps de fabrication.
Donc ils ont commencé à ouvrir des pistes, vous avez sûrement des tas de questions à leur poser. Comme il nous reste 5 minutes, je propose que vous les utilisiez pour les interroger sur leur métier. Voilà, il y en a tout de suite une question.
Pour les anthologies, c'est différent parce que souvent l'anthologie c'est un thème imposé et on a accepté de ce qui est très créatif d'ailleurs comme le scénario. À un moment, on a ce thème imposé puis on essaie de faire quelque chose avec. Bon, ça c'est ça. Et il y a toujours un dialogue. Mais pour le roman, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait son roman, on est seul pendant plusieurs mois avec le roman et on voit pas toujours les défauts de son travail. Et l'œil éditorial est extrêmement important. Mais il y a des bons. Les éditeurs, ça.
Il y a des bons et des mauvais.
Ouais. Il y a le vrai œil éditorial, c'est celui qui va essayer de améliorer le texte. Donc on fait un mouchoir sur son ego, pas toujours facile, parce que après Dieu, il y a juste nous. Non, on fait un mouchoir sur son ego et on essaie de comprendre. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que comme éditeur, me renvoie des choses. Si il y a un problème de structure, c'est grave. Hein. Ça veut dire qu'il faut la maison qui n'a pas de bout. Et que là, il faut tout reprendre quasiment à zéro pour que le roman tienne. Si ce sont des problèmes stylistiques, c'est souvent mon cas, alors un jour à ma talente, j'avais trouvé une phrase qui était très jolie. J'étais content de moi, vraiment, merveilleuse phrase. Et puis je l'ai mise une fois, je l'ai mise deux fois, je l'ai mise dix fois, je l'ai mise vingt fois. Et à un moment, l'éditeur me dit, ça fait beaucoup. Donc il souligne. Et cet œil-là est super important parce que moi, je ne vois plus. Je suis tellement content de ma phrase que je la reprends lui et je ne vois plus ce que je suis incapable de voir, ce que j'ai foutu comme truc. Et donc, cet œil-là qui est très important, ce que j'essaie de voir quand l'éditeur. Parce que je ne suis pas toujours d'accord avec mon éditeur sur la correction qu'il me propose. Mais c'est toujours en fonction de l'intérêt du texte. Si je pense que ce passage-là doit être gardé parce qu'il sert le texte, je garde le passage. Je peux le modifier éventuellement, je garde le passage. Si je m'aperçois que je me suis fait plaisir sur un paragraphe, mais qui nuit considérablement à l'action et à la fluidité du roman, alors je vais le supprimer souvent avec la mort dans l'âme, parce que c'est un passage sur lequel on a sué quand même et tout ça, mais voilà, je vais être rayé. Si il sert le texte. Et ça, c'est un rapport normal, je pense, avec son éditeur. C'est-à-dire que lui, il faut lui faire confiance, c'est pour ça qu'il faut trouver un éditeur à qui on fait confiance. On sait que ce qu'il va nous proposer, c'est pour l'amélioration du texte. Et tout ce qui va pour l'amélioration du texte, je prends. Et ça ne rogne en rien la liberté créative.
On a un éditeur-auteur dans la salle. Jean-Claude.
Je vais tout parler du rôle de l'éditeur. Par contre, j'ai une question qui me taraude. Quand on a écrit comme ça en collaboration, je pense en particulier à Frédéric, au niveau des scénaristes, qu'on a ce travail d'équipe où les idées fusent et où, comme tu dis, on laisse son ego à la porte. Et on prend le meilleur. Est-ce que quand on est seul devant sa page, on n'a pas un sentiment de manque de ne pas avoir son équipe avec soi? Parce que pour avoir moi-même travaillé en collaboration, c'est vrai que j'ai mes auteurs de collaboration avec moi à côté, qui sont en permanence derrière mon épaule, et j'ai du mal à m'imaginer sans eux.
Bon, en fait, il y a deux. J'ai la chance, encore une fois, d'avoir. En fait, j'ai eu beaucoup d'idées originales qui ont été adaptées. Donc maintenant, au niveau scénario, cinéma en tout cas, je travaille souvent seul pendant une grande partie du monde. D'ailleurs, au niveau cinéma, c'est le seul espace de liberté, hein, l'auteur, parce que après, c'est vraiment que des arrêts, des ajouts, des contraintes. Mais le moment où on a une vraie liberté, c'est quand on commence à créer l'histoire. Après, moi, ma difficulté, effectivement, comme vous dites, au niveau du roman, ça a été de m'en trouver seul, mais longtemps. C'est-à-dire qu'un scénario, enfin moi je compare ça, après je sais pas, j'ai vraiment comparé ça à un scénario entre un sprint et le roman un marathon. C'est vraiment, c'est facile comme image, mais la concentration sur le long terme, ça a vraiment été un problème pour moi. Et là, j'entendais Pierre qui disait l'œil de l'éditeur. Moi ça a été, c'était super important parce que d'abord je ne savais et je sais encore pas très bien comment on écrit un roman, même si j'ai la chance que celui-là ait eu un prix. C'est vraiment, alors pour le coup, l'éditrice Stéphanie Chevrier qui m'a gonflé, qui a vraiment insisté pour que je travaille et que je retravaille. Donc ça a été long, ça a été pénible et tout, mais pour avoir un résultat probant. Et être tout seul longtemps, ça a été compliqué de ne pas avoir justement un œil critique rapide et de ne pas savoir si ce que je faisais était long ou court. Moi, quand j'ai rendu la première version manuscrite du roman, elle l'a lu, et une semaine après elle revient, elle me dit, bon Frédéric, c'est super, mais t'as juste oublié qu'il n'y avait pas un écran derrière avec des images, donc j'aimerais bien que tu me décrives un petit peu là où t'es, comment sont les personnages, ce qu'ils sont. Et j'avais même pas vu ça, pour vous dire la stupidité de temps en temps, quoi.
Là tu faisais tout le boulot tout seul.
Ouais, j'écrivais les émotions parce que ce qui m'importe le plus, j'avais envie de trouver les idées, redéfinir la magie, plein de trucs. Mais alors, il n'y avait rien de l'écrit, il n'y avait pas une maison qui était expliquée.
Et je vais poser une question qu'aurait posée Jean-Claude, c'est est-ce que tu penses aussi aux odeurs, à tout ce qui est sensoriel, mais qui n'est pas délivré par le cinéma?
Alors, pour moi, c'est plus lié aux émotions, donc c'était plus simple. Mais c'était vraiment l'aspect, je dirais, de prime abord visuel qui a été, alors que c'est presque ce qui est évident, qui a été plus compliqué pour moi, pas à écrire, mais simplement à intégrer dès le départ. Et là, la solitude, elle a été pesante à ce moment-là. Voilà.
Justement, tu as été donc obligé, et ça se voit en particulier dans un certain nombre de scènes, les scènes de bagarre au musée, des choses comme ça, qui sont extrêmement visuelles, on sent bien les placements de caméra,
oui.
Tu es obligé de faire ce boulot-là, toi.
Oui.
Et donc maintenant, tu te retrouves scénariste, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Et tu reportes ce travail vers un membre de l'équipe.
Non, alors moi je rejoins complètement Pierre qui parlait de la nouvelle vague. Moi, quand je suis rentré en France, je suis arrivé en disant voilà, j'ai travaillé sur ça. Je vais vous donner Mon premier rendez-vous, c'était une boîte qui s'appelle Fidélité, qui produit les films de François Ozon, entre autres. Je suis arrivé, alors j'étais tout fier et tout, les bras gonflés, tout ça, en disant, voilà, je travaille sur tel film. Je suis super classe comme mec, vous allez voir. Et en fait, j'arrive avec un booklet de 600 pages. Il y a en gros une centaine de synopsis, 10 pages par synopsis, en disant, voilà, j'ai pas mal d'histoires, il y a des drames, il y a des fictions, il y a il y avait tout de A à Z, quoi. Et la personne, c'était Eric Gelman à l'époque, qui était devant moi, elle referme et dit, mais c'est quoi votre spécialité ? Alors, j'étais super étonné qu'il me demande ça. Je dis, mais j'ai pas de spécialité. L'idée, c'est de trouver une bonne histoire. Après, avec la tonalité, je vous en fais un drame comme une comédie. L'élément, il est pas. On peut faire de tout une comédie. Et de tout, bon, c'est compliqué quand tout le monde meurt, mais après, sinon, on fait un film de genre. Mais on peut. C'est vraiment une question de tonalité. Et tous autour de la table, vous savez comme moi, quoi. Donc, je me suis rendu compte que. En France, c'était super sectorisé. Il y avait les auteurs de comédie qui faisaient les comédies, les auteurs de drames qui faisaient des drames. Et c'était super dur. Et moi, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une productrice qui s'appelait Claudie Ossard, qui avait produit Amélie Poulain, Délicatessen, enfin des gens comme ça, qui a acheté le premier scénario que j'ai amené tout de suite, qui s'appelait Le mythe de Chal, qui va se faire malheureusement maintenant en anglais et chez Universal, parce qu'en France, on n'est pas arrivé à le monter, et ça se monte aux États-Unis. Donc, ça s'appelle Legend of Chal. Et après, je me suis retrouvé à faire une comédie, Madame Irma, par Didier Bourdon. Et là, je me suis retrouvé à avoir des rendez-vous pour faire que des comédies. Que ça. Alors que c'est pas du tout mon univers. Moi, j'aime bien le truc sur un peu fantastique, romantique, tout ça. Et là, et c'est super dur de sortir de ces cases.
Je suis absolument désolée, mais il va falloir que j'arrête cette discussion passionnante parce qu'on a une table ronde derrière qui a hâte de commencer aussi. Donc, un grand merci à tous les participants qui nous ont raconté des tas de choses passionnantes. Merci à vous tous et merci à vous.